Je voulais être un écrivain comme Henri Miller, comme Bukowski.
Dany Laferrière.
Et je voulais trouver les traces de cette Amérique que Borges appelle le matin du monde, et dans ma littérature, et m'échapper de l'influence de la littérature française que j'aimais bien, mais que je trouvais trop littéraire.
Ça peut pas faire de mal.
Est-ce pourquoi je me suis acheté une machine à écrire à la sortie de l'usine à Montréal pour essayer de retrouver la spontanéité, l'immédiateté d'un Bukowski, d'un Hemingway ou d'un Miller. Donc ce qui lie tous ces écrivains, c'est une recherche, la recherche d'un jeune écrivain pour habiter son continent, le continent américain.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je m'installe devant la machine à écrire avec l'espoir de tirer quelque chose d'une Remington 22 qui a bien vu John Baez en chair et en os. Je l'ai acheté chez un brocanteur de la rue Ontario qui vend des machines à écrire avec pédigré, de vieilles machines. Il les vend à de jeunes écrivains, car qui d'autre qu'un jeune écrivain serait assez gogo pour croire à un truc si vulgairement commercial ? Et qui d'autre aussi se croirait écrivain parce qu'il possède une machine ayant appartenu à Chester Himes, James Baldwin ou Henry Miller ? Alors lui, il vend des machines selon le style de bouquin que vous voulez écrire. Si c'est un bouquin paranoïaque, on vous vend la machine schizophrène qui a appartenu à Tennessee Williams. Si vous voulez plutôt une machine suicidaire, il y a celle de Mishima. Pour ceux qui s'intéressent aux sagas familiales, c'est l'Olivetti de Carol Oates qui fera l'affaire. Comment réussir un livre qui se vendra bien ? Alors il ne faut pas hésiter à acheter le solide tas de ferraille en or de Mario Puzo. Comment ne pas hésiter devant un si vaste choix ? Pour un jeune écrivain, c'est la caverne d'Ali Baba. La voix du brocanteur ne m'a pas lâché un seul instant, me proposant tour à tour la discrète machine de Salinger, la machine d'occasion de Virginia Woolf, etc. Voici cette machine terroriste qui a servi à taper les déclarations des Black Panthers. C'est une portative. Au bout du compte, j'avais le choix entre la vieille Underwood de Hemingway et cette Remington 22 qui a appartenu à Chester Himes. J'ai pris Himes. J'enlève gravement la housse. La machine me fait un sale clin d'œil. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est vu. Elle boude. Je l'avais mise au clou. Pour la rendre joyeuse, je la nettoie avec du pétrolum jelly. La Remington ruisselle comme une églantine sous la pluie. Je m'installe à ma table de travail, qui sert aussi de table à manger, de chaise supplémentaire, et il m'arrive aussi de baiser dessus. Je m'assois tranquillement, glisse doucement une feuille blanche dans le tambour, pose à mes pieds une bouteille de mauvais vin, et, le rituel terminé, je m'assoupis, rêvant comme vous et moi d'être Ernest Hemingway. 3 heures plus tard, la page encore blanche, je décide de faire plutôt un grand ménage, balai, nettoyage, vaisselle. Comme quoi le génie peut s'exprimer partout. Avec le jour, des vagues successives de chaleur s'engouffrent par la fenêtre. J'empile les bouquins dans un coin sous la table et range la machine à écrire sous le lit. Ces débuts laborieux sont ceux d'un écrivain devenu, 40 ans plus tard, un immortel parmi les immortels. L'auteur d'origine haïtienne, Dany Laferrière, né en 1953, nommé à l'Académie française en 2013. Cet extrait est tiré de son premier roman, un best-seller au titre sulfureux, publié en 1985 au Québec, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Il fait aujourd'hui l'objet d'une réédition chez Grasset, sous le titre de « Mythologie américaine ». Ce lundi, Dany Laferrière sera le parrain d'ailleurs à mes côtés de la journée de la langue française organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce soir, en ouverture de la semaine de la francophonie, je vous invite à parcourir son œuvre si singulière qui évoque, entre gravité et légèreté, l'expérience de l'exil et la renaissance par l'écriture. Pour commencer, évoquons cette nuit tragique qui va bouleverser le destin du jeune homme. Nous sommes à Port-au-Prince en 1976. À 23 ans, Dany Laferrière voit son meilleur ami, Gassner Raymond, journaliste comme lui, se faire assassiner par les tontons Macoutes, ces miliciens au service des Duvaliers, dictateurs français de père en fils. Comme son propre père, qu'il n'a plus revu depuis l'âge de 5 ans, Dany Laferrière se voit contraint à l'exil. Voici les réflexions qui l'assaillent lors de la dernière nuit qu'il passe dans sa ville natale. extrait de son second livre, intitulé « Le cri des oiseaux fous », publié en l'an 2000 aux éditions du Serpent à plumes. Quoi que je fasse, je sais que dans 20, 30 ou 40 ans, tous les événements de cette dernière nuit, dans leurs moindres détails, remonteront à la surface de ma mémoire comme un bouchon de liège. Pour l'instant, je vis ce moment dans ma chair et mon esprit. Je regarde ma montre sans arrêt. Je deviens un obsédé du temps. L'espace est mort. Vive le temps. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemble l'endroit où je serai demain. Je n'ai jamais quitté mon pays, même pour aller en Dominicanie, le pays voisin qui partage avec nous ce caillou au soleil. Je n'ai pas souvent rêvé de partir, contrairement à la plupart de mes copains. Je suis ici, je vis ici. S'il le faut, je mourrai ici. Non, je ne veux mourir nulle part. Encore moins dans mon pays de malheur où la mort nous frappe si jeune et de manière si violente. Je ne suis pas assez nationaliste pour souhaiter mourir dans cette saloperie de pays aux mains de ces gens qui ont tué mon frère Gassner. Un dictateur noir vaudrait-il mieux qu'un fasciste blanc ? Je ne me pose pas ce genre de questions. Je ne partage pas trop l'idée de pays, de drapeau ou de nation. Je dirais plutôt que c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai connu l'amour pour la première fois, c'est ici que vivent ma mère et mes tantes, c'est ici que vient de mourir mon meilleur ami. Une accumulation. Cette masse de faits produit une émotion, et cette émotion m'appartient en propre. C'est mon identité. Je ne crois pas que les gens soient plus intéressants ailleurs qu'ici, ni même que la vie est meilleure. C'est sûrement différent, même si je ne sais pas de quoi est faite cette différence. Je pense avoir le droit, si tel est mon désir, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. C'est tout. Un désir personnel, le mien. C'est ce que le pouvoir déteste le plus. C'est ce qui lui fait montrer les dents. Il nous veut à sa merci. Nous sommes obligés de l'aimer ou de le détester. Si je meurs cette nuit, on fera peut-être de moi un héros, alors que je ne fais que penser à moi. Je suis un individualiste né. Et fier de l'être. C'est ma dernière cartouche contre le pouvoir. Ne pensez qu'à moi. Moi contre eux tous. Tous ceux que je connais ne pensent qu'au pouvoir, pour l'adorer ou le détester. D'après eux, il n'y a pas d'alternative. Faux. Le droit de penser à moi. Mon ultime refuge. Mon dernier carré de résistance. Mon intériorité profonde. Ils ne mourront pas à la surface avec leur propagande de merde. Sur ce banc, je suis en train de penser à moi. Je me confesse de cet acte obscène, mais c'est ainsi. Faisant le vide total, immobile, de pierre, les nerfs tendus. En ce moment, je ne pense ni à Papa Doc, ou son fils qui n'est que son ombre au pouvoir, ni au tonton Macoute à qui on a déjà passé l'ordre de me tuer, ni à ma mère en train de prier pour que cette nuit ne soit pas la dernière de ma vie, ni à mon père que je n'ai jamais vu vraiment mais qui occupe par son absence même une place immense dans mon cœur, ni même à Gassner. Je dis bien à personne. 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 Que cela soit écrit quelque part, un Haïtien a réussi à ne penser qu'à lui-même. C'est l'une des opérations les plus épuisantes de ma vie. On devrait mettre une plaque sur ce banc. Ici, ce 1er juin 1976, un jeune Haïtien de 23 ans est parvenu à sortir de ce grouillement humain pour oser penser à lui-même. Un individu est né. J'en suis tout étourdi.
Il faut quand même parler de ma mère, qui était restée sur sa galerie, non pas à m'attendre, parce qu'elle voulait pas que je revienne à la maison pour que les tontons Macoute, les sbires de Duvalier, ne viennent pas me cueillir.
C'est elle qui vous convainc d'ailleurs, qui vous dit « il faut que vous partiez ».
Ma mère s'est dépêchée pour rencontrer quelqu'un qui pourrait l'aider à me faire partir.
Restons en compagnie de ce jeune homme qui se revendique poète au milieu de la tourmente. Voici un second extrait de ce livre confession, « Le cri des oiseaux fous », qui relate la dernière nuit que passe le narrateur en Haïti. Bien avant d'acheter sa première machine à écrire, la fameuse Remington 22, il nous livre son amour des mots. « Ce que j'aime, c'est écrire. Rendre une ambiance avec des mots. Faire vivre une situation avec des phrases. Je suis fou des mots. J'ai un cahier plein de mots rutilants, mais les plus beaux sont les plus simples. Des mots comme lune, mer, ciel, jaune, ou cœur. J'aime le mot étincelle, qui me fait penser à une pluie d'étoiles. Et tout de suite, mon enfance m'éclate à la tête. Je ne sais pas pourquoi je pense constamment à mon enfance. Souvent dans la journée, je vois flotter devant mes yeux le visage si calme de ma grand-mère, et cela me repose. J'aime la discrète puissance du mot étincelle. Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. C'est un mot aussi élégant et féminin que le mot libellule. Ce n'est ni brutal ni grossier comme le mot pouvoir. Par contre, le mot sexe n'a pas de genre à mon avis. Pourtant, il n'est pas neutre, plutôt explosif. Curieusement, je n'aime pas les dictionnaires. Je n'accepte pas l'idée qu'on puisse définir les mots. J'ai recopié ce que j'aime dans un cahier et je leur ai donné à chacun un sens personnel. Le mot tristesse, par exemple, m'a toujours semblé un mot très gai, d'une gaieté imbibée d'alcool. Alors que le mot joie me fait terriblement peur, un mot de deuil. La mort accompagne toujours la joie. Alors que je vois des pierreries dans le mot tristesse, la lettre S étant pour moi la plus raffinée de l'alphabet. Dès que je trouve un mot qui me plaît, je sors mon cahier noir pour le noter. Les mots pullulent. Certains ont traversé des siècles, certains ne vivent que le temps d'une saison. Je trouve mes mots partout, dans la rue, dans les livres ou simplement dans l'air. Certains mots, même morts depuis longtemps, aiment rester dans l'air, à flotter, attendant qu'un facétieux les attrape. J'aime surtout les mots simples que les gens emploient souvent. Des mots qui aiment se retrouver dans la bouche pour se faire manger, broyer, dévorer, mastiquer. Des mots bien domestiqués. Il m'arrive de prendre un de ces mots, un mot qui a roulé sa bosse dans toutes les bouches, des bouches édentées de vieux grincheux, des bouches parfumées d'enfants, des bouches affamées de pauvres ou arrogantes de riches, et de me concentrer dessus jusqu'à ce qu'il devienne tout neuf, comme un sou. Tiens, le mot « sou », par exemple. Trois lettres seulement et tu achètes ce que tu veux avec, enfin, ce qui est achetable. Car rien de ce qui a une vraie valeur n'est achetable. La mer, le ciel, la lune, la couleur jaune ou le cœur. Faut quand même pas cracher sur le mot « sou ». Ce mot, j'aime l'avoir dans ma poche. Je garde secrètement mon cahier noir parce que les gens que je côtoie ne comprendraient pas la passion naturelle que j'ai pour les mots. Un tel luxe pourrait les effrayer. Pourquoi ne pas rassembler mes mots pour en faire une histoire ? Le problème, c'est que j'aime les mots, pas autre chose. Un mot dit tellement plus qu'une phrase ou une histoire. On veut tellement me confiner à un seul sujet, la politique, comme si mon cerveau n'était pas plus vaste que leur univers. Je peux faire entrer l'univers entier dans un coin de mon cerveau. L'affaire, c'est que je suis un rêveur dans un pays où l'on n'aime pas les rêveurs. Et là, je ne parle pas uniquement du dictateur. Tout le monde combat le rêve et les rêveurs. Je me demande s'il y a un endroit au monde où on les accepte. Je voudrais bien y aller. Sûrement sur une carte imaginaire. Vieux eaux, comme m'appelait ma grand-mère. Vieux eaux, pays des merveilles. Mon livre préféré. L'histoire d'une petite fille qui traverse le miroir. Je ne demande pas grand-chose, pourtant. Simplement qu'on me laisse rêver en paix. Je n'ai besoin de rien d'autre.
take the first flight. I have made my choice. I take off tonight.
Réfugié à Montréal, où il va passer plus de 30 ans de sa vie, l'homme du Sud découvre le Nord canadien sous la canicule.
Danny Laferrière, un Haïtien arrivé au Québec sans le sou et qui est parvenu, en un coup de main, à sortir de l'anonymat grâce à son humour provocant.
J'ai voulu prouver aux Blancs, c'est-à-dire aux Montréalais de souche, qu'un Haïtien, qu'un nègre, pouvait faire quelque chose aussi, pouvait arriver dans cette ville et d'une certaine façon la conquérir.
Voici un extrait d'un livre au ton langoureux, écrit en alternance de vers libres et de prose, comme pour mieux rendre l'atmosphère de l'état indien qu'il décrit. Il s'agit de Chroniques de la dérive douce, publié chez Grasset en 2012. L'auteur y raconte les premiers mois passés dans la capitale québécoise durant l'été 1976. L'installation dans une chambre de fortune, la condition des immigrés, le travail à la chaîne, à l'usine qui le nourrira pendant 8 ans. C'est l'apprentissage de la solitude, mais aussi de la liberté sexuelle en pleine révolution des mœurs. Tout est nouveau pour moi, dans cette ville. D'abord cette petite chambre, avec un réfrigérateur, une salle de bain, de l'électricité, 24 sur 24, et la possibilité d'inviter une jeune fille dans mon lit ou de me saouler à mort. J'épingle cette note sur le mur jaune à côté du miroir. Je veux tout, les livres, le vin, les femmes, la musique et tout de suite. Je suis sur mon balcon, la fille d'en face me fait un striptease gratuit. Je la vois de dos, de profil, jamais de face. Elle sait que je suis là, aucun doute à sa manière de bouger. Le soleil levant, cette boîte de jazz dont le propriétaire est un cuisinier polygame et poète à ses heures, du nom de Doudou Boissel, son rire facile, son rhum guadeloupéen et sa cuisine épicée attirent sur cette minuscule scène les meilleurs musiciens de jazz d'Amérique. Ce soir, Dizzy Gillespie joue en alternance avec Nina Simone. J'ai eu une longue conversation avec Dizzy à propos de l'Amérique, du racisme, du jazz et de sa technique pour économiser son souffle. Plus tard dans la soirée, en écoutant la musique de Dizzy, je me suis demandé si c'était le même homme avec qui j'ai causé tout à l'heure. Sa musique était aussi limpide que sa parole confuse.
Ladies and gentlemen, the great preacher of soul music, Nina Simone.
Nina Simone entre en scène. Une boisson verte dans la main droite et une cigarette au bec. Sa bouche effleure le micro. Elle fume, boit, chante et danse à peine. Le tout avec cette grâce qui nous révèle un aspect plus intime de sa vie. Elle ne doit sûrement pas dépenser plus d'énergie pour dormir. Une petite flamme que le moindre courant d'air pourrait éteindre. Nina Simone, pourtant sa voix nous dit qu'elle a déjà survécu à de terribles tempêtes. Something to live for. Je me demande ce que font mes amis là-bas. On est samedi soir, je sais bien où ils sont, mais parlent-ils de moi? Et surtout, qui a une chance avec Marie-Flore? Une semaine de plus, ça aurait marché avec elle. Je l'imagine aujourd'hui dans les bras d'un autre. Je n'ai même plus besoin du sommeil pour passer d'un monde à un autre. Les frontières sont devenues si floues que je ne sais plus de quel côté je suis. Mais où est le dieu Legba qui laisse ainsi ouverte sans gardien la barrière du temps? Doudou Boissel m'a glissé l'autre soir entre deux solos de Dizzy. Mets-toi du côté des femmes. Elles sont solides. Elles te nourriront, te laveront, te vêtiront et te borderont si tu tombes malade. Souviens-toi que tout homme a besoin de sa mère. Si elle n'est pas là, une autre femme peut faire l'affaire. Elles ont souvent du cœur. Le voilà parti en riant vers la cuisine. Je dois de l'argent à l'épicier. Je dois de l'argent à mon voisin. Je dois presque 2 mois de loyer. Je dois aussi quelque chose à la grosse femme de la buanderie. Et je vais devoir emprunter ce mois-ci encore. La grosse femme de la buanderie a la chair très blanche, des seins volumineux qui dépassent largement le cadre du soutien-gorge. Elle a le haut de la cuisse encore plus blanc que le reste du corps et une toute petite tache de vin sur la hanche. Elle me l'a montré ce midi. La grosse femme de la buanderie se frotte contre moi. Sa peau est douce, crémeuse, glissante comme un savon. Par la fenêtre ouverte, la chaleur s'engouffre dans la chambre. Sa langue est encore fraîche. La grosse femme de la buanderie est arrivée avec 2 sacs de provisions, sucre, sel, pommes de terre, steak, yaourt, riz, tomates, laitue, huile, carottes, raisins, oranges. Elle range tout dans le réfrigérateur et dans les placards de la cuisine. La voilà en sueur à la fin. Elle va prendre une douche avant de venir me retrouver dans le lit où je lui fais l'amour calmement en pensant que ce n'est pas ce mois-ci que je mourrai de faim. Couché dans le lit, je regarde la grosse femme de la buanderie s'habiller en souriant. Sa chair est aussi généreuse que son cœur. Une beauté rose chez moi.
Vous, les femmes, vous les aimez. Qui sont vos femmes?
Ah ben, elles sont nombreuses. D'abord, il y a ma grand-mère, Da, qui m'a recueilli dans une toute petite ville d'Haïti, à Petit Gouave. Et j'ai été élevé dans son giron, dans sa jupe, si l'on peut dire. Je suis le fils aîné de la fille aînée d'une maison où il n'y a que des femmes. C'est-à-dire, j'ai été élevé entouré de 8 femmes. Je peux dire que ma vision est féminine d'une certaine façon. J'ai été élevé dans cette éducation-là.
En cet été 1976, le jeune homme rêve encore des filles qu'il a laissées derrière lui. Marie-Flore, Mickey, mais surtout une certaine Pascaline. Ouvrons un autre roman d'émancipation, Le goût des jeunes filles, publié en 2005. Nous sommes à Port-au-Prince en 1971. Étudiant, le narrateur vit dans une petite chambre d'où il assiste à un spectacle nocturne fascinant, le ballet incessant des prostituées dans l'appartement d'en face. Un vendredi soir, le jeune homme, recherché par la milice, trouve refuge chez sa ravissante voisine. Voici un extrait de ce roman qui porte la dédicace suivante. « Aux hommes de ma lignée, à mon grand-père qui aimait tant les roses, à mon père, l'éternel absent, à mon oncle Yves, volontairement oublié. Pardonnez-moi de le dire ici, seules les femmes ont compté pour moi. J'ai l'impression d'être déjà mort. Je vois tout, je comprends tout. Je suis de l'autre côté des choses, du côté de l'ombre. La lumière est juste en face. Cette impression s'accentue quand je regarde ma chambre de l'autre côté. Je me vois en train de marcher dans cette étroite pièce. Je fais mes devoirs, j'étudie mes leçons, je suis un gentil garçon. C'est ce que croient ma mère et mes tantes, alors que je suis tout plein de rage. Je suis toujours en colère, contre tout. Je déteste cette maison, je déteste la rue, je déteste cette ville. Je veux le ciel tout à moi. Personne ne soupçonne ce qui se passe en moi. Tante Raymonde n'est pas dupe, mais elle ferme les yeux. Je continue d'obéir à tout le monde, alors que je les déteste tous. Je ne me sens vivant que lorsque je pense aux filles. Heureusement qu'elles sont toujours là, juste en face, chez Mickey. Il n'y a que ça de bon dans la vie, les filles. Surtout quand on a comme moi le temps de penser à elles. Et ce n'est pas le temps qui me manque. Je le répète, je finis toujours très tôt mes devoirs et mes leçons. Je range mes cahiers et mes livres sur mon petit bureau et je vais me coucher. Je suis sur le dos et je regarde le plafond jusqu'à ce qu'il devienne comme un ciel. Je me lève et me mets à la fenêtre. Je regarde de l'autre côté chez Mickey. Elles sont là, Dieu merci. Elles sont toujours là. Elles seront là jusqu'à la fin des temps. C'est la promesse divine. D'où sortent toutes ces filles ? Il y en a partout, dans la rue, à l'école, au marché, devant le cinéma Paramount surtout, sur la place Saint-Alexandre, au Champ de Mars, près du portail Léogan. Je vois des centaines de filles, mais je ne rêve qu'à Pascaline. Je la regarde longuement de la fenêtre de ma chambre, jusqu'à m'en saouler. Je dévore son long corps mince, encore et encore. J'imagine son image dans ma tête, dans mes bras, dans mon ventre, dans mes jambes, dans mes mains, dans ma bouche. Et je retourne au lit, je me couche tout près d'elle. Quand l'image devient floue, je la regarde de nouveau. Aujourd'hui, je suis ici, dans la pièce où elle passe son temps à danser. Mais pour mieux sentir sa présence, je suis obligé d'imaginer que je suis encore en face et que je la regarde de la fenêtre de ma chambre. Pourrais-je un jour toucher son corps, son vrai corps, et non l'image que j'ai dans la tête ? Qu'y a-t-il dans ce corps si maigre, capable de dompter les hommes ? Comment sait-elle que les hommes lui doivent tout ? Qui lui a appris ça ? Quelle est l'origine de ce jeu cruel ? Séduire les autres et les mettre à leur merci. J'ai pensé à tout cela après la question de Marie-Flore. Tu t'intéresses aux filles ? Et juste avant qu'elles n'arrivent devant moi, 12 secondes, 3 dixièmes. Tu n'as pas répondu à ma question. Quelle question ? Est-ce que tu t'intéresses aux filles ? Je souris. « Est-ce que tu aimes mes seins ?» me demande-t-elle pour formuler la question autrement. Elle ouvre son corsage à un cheveu de mon nez. Je sais qu'elle est à prendre avec des pincettes. Elle me met ses seins durs devant la bouche. Je regarde ailleurs. « Tu n'as pas l'air de savoir comment faire. » Je ne dis rien. Elle a raison. Je ne sais pas comment faire. Je sais beaucoup de choses de la vie, sauf ça. Quittons la Caraïbe et revenons à Montréal. Les années passent. Daniela Ferrière publie son premier roman en 1985 au Québec. Le succès est immédiat. Devenu célèbre, il anime des émissions de radio, devient présentateur météo à la télévision et adapte certains de ses romans au cinéma. Mais le personnage médiatique cache une souffrance intime, le deuil de son enfance haïtienne. Il décide bientôt de quitter Montréal pour vivre une dizaine d'années à Miami. C'est sous le soleil de Floride qu'il rédigera ses plus beaux romans consacrés à ses proches. Voici un extrait du roman qui symbolise ce retour aux origines. Il s'agit de L'énigme du retour, publié en 2009, salué par le prix Médicis. L'auteur y renoue avec un style méditatif, mêlant vers libre et prose. Ce coup de fil au milieu de la nuit... Êtes-vous Windsor Laferrière ? Oui, c'est mon vrai prénom. C'est l'hôpital de Brooklyn. Windsor Laferrière vient de mourir. Nous avons le même nom. On a trouvé mon numéro de téléphone sur lui. Elle me raconte d'une voix douce et égale qu'il venait la voir quand il n'allait pas bien. Parfois de graves crises. Personne d'autre que moi ne pouvait l'approcher à ce moment-là. Un homme très doux malgré cette colère qui l'habitait si fortement. Votre père est mort en souriant. C'est tout ce que je peux vous dire. Couché sur le dos, je suis resté un long moment à regarder le plafond. Mon père vivait dans une petite chambre presque vide que mes oncles m'ont fait visiter après l'enterrement sous la pluie, dans ce cimetière de Brooklyn. Il s'était vers la fin dépouillé de tout. Il fut toute sa vie un solitaire malgré le fait que ses activités politiques le poussaient vers les gens. Depuis 20 ans, chaque jour, en été comme en hiver, il faisait l'aller-retour à pied de Brooklyn à Manhattan. Sa vie se résumait à cet incessant va-et-vient. Mon père a passé plus de la moitié de sa vie hors de sa terre, de sa langue, comme de sa femme. J'avais frappé à sa porte il y a quelques années. Il n'avait pas répondu. Je savais qu'il était dans la chambre. Je l'entendais respirer bruyamment derrière la porte. Comme j'avais fait le voyage depuis Montréal jusqu'à New York, j'ai donc insisté. Je l'entends encore hurler qu'il n'avait jamais eu d'enfant, ni de femme, ni de pays. J'étais arrivé trop tard. La douleur de vivre loin des siens lui était devenue si intolérable qu'il a dû effacer son passé de sa mémoire. Je me demande quand a-t-il su qu'il ne retournerait plus jamais en Haïti. Et qu'a-t-il senti exactement à ce moment-là? À quoi pensait-il dans sa petite chambre de Brooklyn durant les longues nuits glaciales? Dehors, il y avait bien le spectacle de la ville la plus animée du monde. Mais dans cette chambre, il n'y avait que lui, cet homme qui avait tout perdu, si tôt dans sa vie. Je tente de l'imaginer dans sa chambre, les rideaux tirés, en train de rêver à sa ville si semblable à celle décrite par un jeune Aimé Césaire en colère. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier, parce qu'on le sent sien, lui seul. Le cri reste encore coincé dans la gorge.
En quoi l'exil a nourri votre écriture ?
Oh, l'exil, comme je le dis, c'est l'affaire de tout le monde. Et si on n'est pas exilé de son pays, d'un espace, on peut l'être aussi de son enfance, comme de son adolescence. Nous avons tous quitté un lieu ou un temps où nous ne pourrons presque pas revenir. Bien sûr que l'exil nourrit une œuvre parce qu'il nous donne de la distance par rapport au paysage. Et quand on ne voit pas ce qu'on rêve, on l'écrit.
Poursuivons la lecture de ce livre poignant, L'énigme du retour. C'est en 1984 que Dany Laferrière perd son père, resté seul en exil à New York. 2 ans plus tard, il apprend la disparition de son père spirituel, l'écrivain argentin Borges. Ces années coïncident avec la fin de la dictature du fils Duvalier en Haïti. L'écrivain revient pour la première fois dans son île natale, après 10 ans d'absence. Il retrouve sa mère, fidèle à son fauteuil, sur la terrasse de la maison familiale. Nous sommes sur la galerie, près des lauriers roses. Ma mère me parle tout bas de Jésus, l'homme qui a remplacé son mari en exil depuis 50 ans. Au loin, la voix d'une marchande de pacotille. J'ai pris toutes les précautions du monde pour annoncer à ma mère la mort de mon père. Elle a d'abord fait la sourde oreille, puis s'est fâchée contre le messager. La distance est si fine entre la longue absence et la mort que je ne me suis pas assez méfié de l'impact de la nouvelle sur les nerfs de ma mère. Ma mère évite de me regarder. J'observe ses longues mains si délicates. Elle rentre et sort de son doigt l'anneau de mariage, tout en fredonnant si doucement que je peine à comprendre les paroles de la chanson. Son regard se perd dans le massif de lauriers roses, qui lui rappelle des souvenirs d'un temps où je n'étais pas encore, le temps d'avant. Revoit-elle cette époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante? Son sourire furtif m'atteint plus que des larmes. J'entends chanter ma mère dans la chambre d'à côté. La nouvelle de la mort de mon père lui est enfin parvenue à la conscience. Le cortège de douleurs, les jours vides, alternant avec l'éclat du premier regard, tout refait surface. Je fais le va-et-vient entre l'hôtel et la maison cachée derrière les lauriers roses. Ma mère s'étonne que je ne couche pas à la maison. C'est que je ne veux pas lui donner l'illusion qu'on vit de nouveau ensemble quand ma vie se passe loin d'elle depuis si longtemps. Je ne cesse de revenir sur elle dans mes écrits, passant ma vie à interpréter le moindre nuage sur son front, même à distance. Je m'habille en pensant à cette femme qui a passé sa vie à se soucier des autres. C'est aussi une manière de se cacher. La voilà pour une fois à découvert. Ma mère dans sa douleur nue. Ma mère me dit cet après-midi, sur le ton de quelqu'un qui se doute qu'on l'écoute, que les morts se promènent parmi nous. On les reconnaît à cette manière d'apparaître et de disparaître sans qu'on sache ce qu'ils étaient venus faire.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Dibonata Jackalosita Malomune in Sawaiti. Banco Mamantaiti Jackalositaiti Munayeni Sabu. Banco Mamanta Aiti O Ninki Munayeni Sabu.
Retrouvons la mère de Daniela Ferrière 25 ans plus tard, face à une nouvelle épreuve. Nous sommes à Port-au-Prince le 12 janvier 2010. À l'occasion d'un festival de littérature, l'écrivain est présent le jour du séisme de magnitude 7 qui a secoué l'île d'Haïti.
Il appelle à l'aide, mais pas pour lui. Pour cette femme, coincée un peu plus loin. La solidarité joue à plein, mais 2 mètres plus loin, ou juste au hasard d'un mur plus fragile, cet homme n'a pas eu cette chance. L'épicentre, très proche de la ville, a engendré une secousse de magnitude 7 dévastatrice. D'après les témoignages, aucun bâtiment à étage n'a résisté. Dans les rues, blessés et morts parsèment le trajet d'une population terrifiée et désemparée.
Le lendemain, il se rend en voiture à la maison familiale. La barrière rouge est la même que celle qu'il a franchie pour ne plus jamais revenir 40 ans auparavant. Voici un extrait du livre intitulé « Tout bouge autour de moi », publié en 2011, qui revient sur cet événement tragique. On tourne à gauche à la première ruelle. Mon cœur se serre. Pourtant, les maisons dans sa petite rue ombragée par je ne sais quel miracle, semble encore debout. On roule lentement, un silence inhabituel, pays glacé. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Mon cœur bondit quand je vois mon beau-frère près de la grande barrière rouge. Il a l'air soucieux, mais pas plus que d'habitude. On range la voiture le long du mur. Le maigre sourire de mon beau-frère me rassure pourtant. Je me dis que s'il était arrivé quelque chose, il ne serait pas dehors. Je tente de me temporiser, car on ne sait jamais. Tout le monde est dans la cour, même mon neveu Danny. On porte le même nom pour que le dictateur qui m'a poussé à l'exil n'ait pas le dernier mot. Je frémis en pensant que mon neveu aurait pu être à l'université ou ailleurs au moment du séisme. Il était passé par hasard à la maison, n'ayant pas l'habitude de rentrer chez lui avant le crépuscule. Et sans mon neveu, il n'y aurait eu à la maison que ma mère, une femme de plus de 80 ans. Même à moi, elle ne dit pas son âge, étant renée qui ne peut se déplacer sans aide. Les voilà tous sains et saufs. Ma mère, toute excitée, me prend dans ses bras. Elle me chuchote à l'oreille cette litanie. J'aurais tout vu dans ce pays. Des coups d'état militaires, des cyclones à répétition, des inondations dévastatrices, des dictatures héréditaires et maintenant un tremblement de terre. Je ne sais plus s'il faut inscrire la dictature parmi les désastres naturels. Ma mère insiste. J'aurais tout vu. Je fixe un moment ses grands yeux qui ont tout vu. Cette tristesse n'a duré qu'un instant. La maison ne semble pas très endommagée. Ma mère me prend le bras pour me montrer une petite fissure dans le salon et une autre plus importante dans la salle de bain. Pas bien grave, mais assez pour l'inquiéter. En fait, on est si fortement ébranlé que cette peur nous habitera longtemps encore. La mort, quand elle arrive de manière si inattendue et massive, ne quitte pas facilement notre esprit. C'est tellement grand qu'au lieu de nous plonger dans la tristesse, je sens plutôt monter lentement une sensation proche de l'ivresse. L'impression que nous avons enfin atteint le fond et qu'on ne peut que remonter à la surface. Et puis, il y a la simple joie d'être encore en vie.
Ce pays a une vitalité exceptionnelle. Haïti s'était relevé dès le lendemain. Et je me souviens, puisque j'étais présent, je suis sorti le lendemain pour aller voir l'état des choses dans cette ville qui venait de tomber sous nos yeux avec tous ces morts. Et j'ai vu une vieille dame assise par terre, dos contre le mur, avec un étalage de mangue à vendre. C'était une pauvre femme. Et le lendemain, déjà, elle avait son commerce et elle s'était, disons, mise debout. Et pour aller chercher la vie, comme disait ma grand-mère, buscando la vida, chercher la vie, parce qu'elle a des bouches à nourrir, elle a une vie à vivre, et elle a surtout des gens à protéger. Et c'était ça, et la manière haïtienne de se lever, c'est-à-dire non seulement l'instinct de survie, mais la vie quotidienne et son cortège d'appétit, oui, de choses à faire.
Pour conclure cette émission, revenons à un lieu cher à Dany Laferrière, le village de son enfance. Voici un extrait d'un livre émouvant, L'odeur du café, écrit en 1991. L'écrivain vit alors à Miami et le soleil de Floride lui rappelle les étés passés sur la galerie de la maison en compagnie de sa grand-mère, qui passait son temps à siroter du café. L'enfant passait ses journées à observer les fourmis, les libellules et à guetter l'arrivée d'une petite voisine, Vava, dont il était éperdument amoureux. Vava, morte de la malaria, est aujourd'hui ce fantôme à la robe jaune qui traverse tous les livres de Dany Laferrière. J'ai passé mon enfance à Petit Gouave, à quelques kilomètres de Port-au-Prince. Si vous prenez la Nationale Sud, c'est un peu après le terrible morne Tapion. Laissez rouler votre camion. On voyage en camion, bien sûr, jusqu'aux casernes, jaune feu. Tournez tranquillement à gauche, une légère pente à grimper et essayez de vous arrêter au 88 de la rue de la Mare. Il est fort possible que vous voyiez, assis sur la galerie, une vieille dame au visage serein et souriant à côté d'un petit garçon de 10 ans. La vieille dame, c'est ma grand-mère. Il faut l'appeler Da. Da, tout court. L'enfant, c'est moi. Et c'est l'été 63. Quand on y pense bien, il ne s'est rien passé durant cet été, sinon que j'ai eu 10 ans. Il faut dire que j'ai été un peu malade. J'ai eu de fortes fièvres. Et c'est pour cela que vous m'avez trouvé tranquillement assis au pied de ma grand-mère. Le bon docteur Caïmite, un beau nom de fruit tropical, n'arrive pas à savoir ce que j'ai vraiment. Je ne l'ai pas vue venir. Elle est arrivée dans mon dos, comme toujours. Elle revenait de la messe de l'après-midi avec sa mère. Vava habite en haut de la pente. Elle porte une robe jaune, comme la fièvre du même nom. Les paupières de Vava, des papillons noirs, deux larges ailes, un battement doux, ample, J'ai mal au cœur. Je la regarde longuement. Sa mère lui tient fermement la main. Je compte le nombre de pas qu'il faut pour arriver chez elle. Des fois, elle donne l'impression d'être un cerf-volant au-dessus des arbres. Le fil est invisible.
En filigrane aussi dans votre œuvre, il y a cette sensualité dans l'écriture qui vraiment vous caractérise, que vous décriviez les corps, que vous décriviez les paysages, la nourriture. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de transmettre ça par vos écrits ?
D'abord pour moi, c'est la résistance à la dictature, parce que la sensualité, c'est la vie. Et la dictature, ce qu'elle veut, c'est une sorte de monoculture qui veut complètement assécher et tout le paysage, assécher les terres, assécher les âmes, les cœurs. Et moi, je veux rester en vie, alors c'est un pied de nez à cette dictature pour lui dire qu'elle n'aura pas tout.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Bastien Varigo à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Valérie Bourg. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.